A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Il a une grosse tête, Babacar Mbaye Diop. Je veux dire, une belle tête avec d'énormes concepts hegeliens dedans et un appétit fou pour l'esthétique. Maître de conférence à l'université Chiranta Diop de Dakar, docteur en philosophie à l'université de Rouen en France, ex-secrétaire général de la Biennale de Dakar, Babacar Mbaye Diop est un intellectuel sénégalais avec lequel il va falloir compter et peut-être capituler. Qui mieux placé que lui pour parler d'esthétique négro-africaine? Au moment où l'on parle de la restitution des biens culturels africains par la France, il s'avance avec au moins un ouvrage à cogiter, critique de la notion d'art africain qui paraît aux éditions Hermann. Mais pour lui, qui navigue entre deux terres, celle de Chiranta Diop et celle de Flaubert, petite question, est-ce qu'on trouve chez lui plutôt une toile de Picasso le cubiste ou plutôt une installation du postmoderne Romuald Azoumé ? Salam alaikum, Babacar Mbaye Diop.
Malaikum salam Yasmine.
Nangadef.
Mangifirek.
Est-ce que vous, le docteur en philosophie, vous aimez bien l'exercice du portrait?
Ah oui, j'aime bien. D'autant plus que je suis dans l'univers artistique où les artistes font beaucoup de portraits.
Et si on devait signer un autoportrait, si vous deviez le signer, votre autoportrait, ce serait, vous le verriez comment?
Mon autoportrait... Je suis donc né dans la ville de Kaolack.
Oui, non, mais je parle là de
moi-même.
D'imaginaire, vous voyez.
Voilà.
Si vous étiez le peintre de vous-même.
Ah oui, le peintre de moi-même. Je suis un grand voyageur. J'aime la découverte. Je suis passionné d'art et de culture.
Alors nous, ce qu'on va faire, c'est poser simplement le stylo ou l'ordinateur.
Ouais.
Et puis, c'est ce que je vais vous demander, vous laisser faire sensuellement.
B comme boîte à souvenirs.
On est dans votre Kaolack, là, ou je me trompe?
Non, oui, vous êtes bien dans mon Kaolack natal. Ces cris me rappellent donc mon enfance, dans la maison où il y avait beaucoup d'oiseaux, beaucoup de canards, beaucoup d'oies, parce que ma grand-mère avait à la maison beaucoup d'animaux qu'elle élevait.
On salue donc Fatma, votre grand-mère.
Ma grand-mère Fatma Fall. Et je garde en mémoire, en tout cas, une grand-mère qui m'a vraiment inculqué les valeurs de la tradition africaine.
Kaolack, je le rappelle, qui est à 190 km de Dakar. On entendait un mouezzin, ça veut dire que vous avez grandi tout près d'une mosquée?
Oui, oui, en fait, j'ai grandi dans un quartier religieux. La médina de Kaolack est quand même le quartier le plus peuplé de la ville de Kaolack, où en fait, on entend l'appel du mouezzin plutôt. Et puis, c'est aussi un quartier qui est assez proche d'un marché, où tous les matins, donc, on entend des vendeurs d'eau, des vendeurs d'arachide, des vendeurs de chaussures. Et c'est un brouhaha qui me rappelle souvent mon enfance, ce quartier de la Médina, qui est un peu mon royaume d'enfance.
Alors, comme vous avez le sens de l'histoire, apparemment, vous êtes né un 14 juillet,
ouais.
En 1973, ouais. À Fatick, donc ouais. Entre Dakar et Kaolack. Mm. Mais d'après ce que j'ai compris, vous avez commencé un peu à jouer de la pirogue très tôt, car pendant votre enfance, vous avez pas mal navigué entre Fatick et Kaolack. Pourquoi?
Beaucoup, parce qu'en fait, comme j'ai commencé mes études à Kaolack, à la Médina, j'étais assez terrible quand j'étais enfant. Et mon père ne voulait pas que je continue mes études dans ce quartier-là. Et
c'était une tête brûlée.
Voilà. Mmh. Et je pense qu'il a bien fait parce que parmi mes camarades, je suis peut-être le seul qui ait fait de longues études.
Donc vous avez grandi entre un père polygame,
oui.
Et une mère indépendante.
Une mère indépendante qui vivait à Kaolack.
Et donc, seule alors
seule avec moi, avec mes deux sœurs.
Et est-ce que cette femme indépendante acceptait la polygamie de son mari?
Oui, c'est une réalité en Afrique. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes femmes ne l'acceptent plus, mais à l'époque, c'était quelque chose de normal.
Alors, en 1997, vous arrivez en France, donc pour vos études universitaires. Vous avez eu votre DEA de philosophie à Rouen. C'est vous qui avez d'ailleurs préféré venir à Rouen plutôt qu'à Paris ?
Oui, en fait, à l'époque, j'avais 3 inscriptions, je crois. En France, c'était Rouen, Montpellier et Bordeaux. C'était proche de Paris, je pouvais venir à Paris, visiter les musées, rencontrer les artistes, aller rencontrer les collègues. Et donc voilà, j'ai choisi Rouen. Je suis venu en 1996. Et pour la petite anecdote, quand j'ai eu mon DA de philosophie, j'ai arrêté la philosophie pendant 2 ans parce que j'en avais un peu marre.
Ah oui?
J'en avais un peu marre, 5 ans de philosophie à la fac. Je me suis dit, mais il faut que je fasse autre chose. Je suis allé faire un DSS en ressources humaines que j'ai eu.
D'accord.
Aujourd'hui, tous mes anciens promotionnaires sont chefs de personnel et tout. Mais après, je me voyais mal être dans un bureau entre 2 4 murs. Ouais. Je me suis dit, non, ça, c'est pas du tout moi.
Et donc, vous êtes revenu à vos premières amours philosophiques.
Voilà, voilà. D'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ma thèse de philosophie.
Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous avez un peu mis, du coup, vos pas dans ceux de Flaubert et de cette chère Madame Bovary, mm-hmm. que vous avez lue, évidemment, j'imagine.
Ouais.
Comment ça se passe quand vous arrivez du Sénégal ? Comment vous ressentez cette ville qui est décrite par ce Rouennais de Flaubert, il y a longtemps, c'est vrai, mais comme une sorte de brouillard provincial d'où se dégage une pruderie hypocrite ? Au-delà de ce brouillard, qui est une image d'Épinal, quelle France vous avez découvert, vous ?
Je découvre la Normandie, avec le froid. On dit souvent que les Normands sont assez froids, qu'ils ne parlent pas. Et c'est peut-être vrai, mais ça m'a permis au moins d'aller vers eux.
Et, mais sur le plan des comportements, qu'est-ce que vous avez noté qui aurait pu vous étonner en arrivant d'un pays comme le Sénégal ?
Ce qui m'a le plus surpris, c'est peut-être, nous en Afrique, il y a cette foi en Dieu, cette foi à la religion, et ici il y a une sécularisation, donc je ne voyais pas la religion assez présente ici, mm-hmm. et ça m'a surpris parce que je vivais dans un quartier religieux. Ici, je débarque, il y a une sécularisation, il y a une remise en question de Dieu. Les églises sont plus fréquentées par des anciens, alors qu'au Sénégal, c'est vraiment les jeunes qui vont à la mosquée.
Et plus que les anciens.
Oui, oui. Les jeunes vont à la mosquée, mais aussi vont à l'église. Ici, je n'ai pas vu de jeunes donc aller à l'église, ça m'a surpris. Je me suis dit, l'Europe est dans une autre période, peut-être, depuis qu'on le sait, que Nietzsche a déclaré la mort de Dieu mm-hmm. et qu'elle a proclamé l'avènement du surhomme. Et donc, il y a une culture scientifique ici qu'on ne retrouve pas en Afrique. L'Européen ou l'Occidental cherche à être maître et professeur de la nature, alors que l'Africain, c'est autre chose.
Babacar Mbadiop, est-ce que vous avez eu à ce moment-là une pensée pour un certain Samba Diallo, le héros de l'aventure ambiguë dont on parle régulièrement en
bien
sol
sûr,
majeur
bien sûr.
Je rappelle qu'il y a eu l'âme chahutée, mais là on est au début du XXe siècle, hein, dans ce roman, et il a eu l'âme chahutée en quittant son village des Dialobés pour le monde des Blancs.
Oui, bien sûr. Quand je débarquais, je me suis retrouvé dans le personnage de Samba Diallo. Parce que déchiré que j'étais entre ma culture africaine et la culture occidentale. Mais aujourd'hui, après 15 ans, je pense que je réclame ma diversité.
Vous réclamez la diversité ?
Je réclame ma diversité.
Ça veut
parce
dire ?
Parce qu'aujourd'hui, l'individu se construit, à mon sens, avec l'apport des autres. Il n'y a plus d'Africains purs, il n'y a plus de Français purs, il n'y a plus une identité pure. Nous sommes des êtres métis.
Alors on va sans doute y revenir, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur peut-être l'origine de votre engagement philosophique, Babacar Mbaye Diop, parce qu'il est évident que l'auteur de « Nation nègre et culture », j'ai raccourci un petit peu le titre, vous est proche. J'aimerais bien qu'on partage la voix de Chiranta Diop, anthropologue sénégalais célèbre, qui s'est attaché, on le sait, à présenter l'Égypte comme une civilisation négro-africaine, notamment en s'appuyant sur les textes d'Hérodote.
Les Grecs, à l'époque classique, qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les avons toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Égypte à une époque d'ailleurs où l'Égypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses, en moins 455, Hérodote a visité l'Égypte, il a trouvé que l'Égyptien était des Noirs. C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens, dans Euterpe, qu'il donne tous ces détails à 3 reprises. D'abord pour expliquer la présence d'un îlot de Noirs dans cette région. Et alors Hérodote dit que c'était les Colches. Et c'était un fait intrigant pour les savants de l'Antiquité, les philosophes qui se disaient comment se fait-il en plein 5e siècle qu'il y ait un îlot de noirs comme ça au sein des nations blanches. Et Hérodote donnait entre autres raisons, il disait que c'était dans ces Égyptiens et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires qu'on appelait ces Austrices que les Égyptiens avaient mis ici une garnison. Ceci était consécutif, vous le savez bien, à l'invasion des Hyksos. Et c'est la 18e dynastie qui a donc expulsé les Hyksos. Et les Égyptiens ont créé des sortes de marches frontières aux extrémités de l'Empire pour prévenir de telles invasions. Alors, Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée, de ces garnisons, de ces Austrices, c'est-à-dire de toutes nos histoires.
B comme berceau de l'humanité.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Chiranta Diop sur ce credo Babacar Mbaye Diop, ou est-ce que vous rejoignez les sceptiques, parce qu'il y en a aujourd'hui qui remettent en cause les origines négro-africaines de l'Égypte antique?
Donc Hérodote, parce qu'il faut aussi préciser qu'Hérodote a visité l'Égypte. Et dans son livre 2, il précise bien, au moment où il est venu à l'Égypte, le pays était habité par les Noirs. Donc c'est un témoin oculaire. C'est quelqu'un qui est venu et qui a vu et qui a décrit la population égyptienne. Donc j'y crois fermement. Et il faut dire que l'Égypte a joué un rôle important dans la civilisation. Tous les philosophes grecs sont venus s'instruire en Égypte. Donc je suis tout à fait d'accord avec Chiranta Diop, avec Hérodote. Et d'ailleurs, les populations africaines vous diront toutes qu'elles viennent de l'Est, donc vers le Nil.
Alors, ce goût de la philosophie, si on parle, si on revient à vous, puisque c'est un portrait en sol majeur autour de vous, Babacar, comment il est né? Est-ce que la proximité avec l'islam, dont on parlait il y a 2 minutes, vous a conduit sur ce chemin philosophique?
Je pense que la proximité avec l'islam m'a conduit sur la philosophie. Je me suis posé beaucoup de questions sur Dieu et j'ai essayé d'avoir des réponses que je ne pouvais pas avoir dans mon milieu. Des questions sur l'existence de Dieu, des questions sur la mort, des questions, en tout cas, sur l'existentialisme en général.
Et alors, quel est le philosophe qui a le mieux répondu à vos questions sur la religion, sur le doute peut-être?
Sur le doute, c'est peut-être Descartes qui a douté de tout, sauf de l'existence de Dieu.
Alors, en tout cas, l'une de vos problématiques, c'est plutôt l'art africain. Il n'y a pas que Pascal et Descartes dans votre besace. Hegel aussi est là, c'est votre maître, je crois. Il définit l'esthétique comme étant la science de la sensibilité, la science du ressentir. Je vous cite en même temps.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez ressenti une véritable émotion pour une œuvre d'art?
Ah oui, la première fois, c'est quand j'étais élève, je crois, et que pendant les sorties pédagogiques, on est allé visiter une expo. J'étais resté stocké en face d'une œuvre qui racontait un peu l'histoire du Sénégal.
Quelle était cette œuvre?
Qui racontait la colonisation. C'est le roi qui s'appelle Dadjor Diop, qui était le roi du Cayor. Et l'œuvre donc avait reproduit le personnage même du roi avec les guerres qu'il a effectuées contre les colons. Et donc ça, j'étais ému en face de cette œuvre-là.
C'est-à-dire que dans cette œuvre-là, il y avait des éléments autour de la colonisation que vous ne trouviez pas par ailleurs, soit dans les livres d'histoire, soit dans la littérature.
Bien sûr, parce qu'il y avait le roi, il y avait ses compagnons d'armes avec un fusil. Un fusil, et on voyait des morts par terre. On voyait à côté aussi des blancs.
Oui.
Donc voilà, et ça m'a vraiment touché parce que c'est une histoire qu'on ne raconte pas souvent.
Alors aujourd'hui, vous arrivez avec un critique de la notion d'art africain et dans ce livre qui est passionnant, vous vous élevez, vous déconstruisez en fait certains préjugés qui enveloppent le concept d'art africain. C'est vrai que les adjectifs sont parlants, on dit l'art africain, l'art négro-africain, primitif, premier, tribal. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans ces adjectifs?
Je vois dans ces adjectifs des définitions, si vous voulez, péjoratives et négatives. Parce qu'il n'y a pas d'art jaune, il n'y a pas d'art blanc, il n'y a pas d'art nègre, il y a de l'art tout court.
On peut s'élever, par exemple, contre l'expression art tribal, mais en même temps, vous vous rappelez bien que chez Songhai, le nord-est du Kassai a produit un style tribal magnifique.
Oui, bien sûr. Mais pourquoi parler d'art tribal? Pourquoi
Alors, qu'est-ce que ce serait le bon adjectif?
Mais de l'art tout court, c'est-à-dire, on dit rarement de l'art français, on dit rarement de l'art américain. Je crois que même si le terme est insuffisant en parlant d'art africain, parce que l'Afrique est grande, et puis il n'y a pas un art africain, il y a des arts africains. Ce qui se fait à l'est est différent de ce qui se fait à l'ouest, ce qui se fait à l'ouest est différent de ce qui se fait au sud. On oublie souvent aussi l'Afrique du Nord.
En fait, la question tourne autour de la perception de l'art. Mmh. Quelle est, selon vous, la différence fondamentale entre une perception occidentale et une perception africaine d'un objet d'art?
Il y a une grande différence, parce que ce qu'on appelle objet d'art africain, ceux qui les ont créés ne les considéraient pas comme de l'art. Ils les considéraient comme des objets culturels. Et ces objets sont utilisés dans le cadre des cérémonies donc d'initiation, de baptême, de funérailles.
Prenez un exemple d'un masque, par exemple, qui aurait une fonction.
Le masque Kumpo, en pays Diola, ce masque-là, c'est un masque d'initiation. Et le plus souvent, ces masques africains sont cachés en forêt et ne sortent que pour des cérémonies bien précises. Donc, même le concept art africain est une invention purement européenne. Donc, parce que, comme je viens de le dire, ces artisans qui les ont fabriqués ne les considèrent pas comme de l'art.
Mais ni comme des objets, finalement. Ce sont des objets vivants.
Des objets vivants. Et donc, il a fallu que ces objets sortent de leur environnement religieux pour qu'on puisse aujourd'hui les considérer comme de l'art. Mais ce fait n'est pas spécifique à l'Afrique. Rappelez-vous que la Grèce antique, quand on a sculpté Zeus, Athéna, Aphrodite, au début, ces objets étaient considérés comme des dieux. Mmh. Il a fallu qu'ils sortent de leur environnement religieux pour qu'aujourd'hui, on les considère comme de l'art.
Alors, ça veut dire que pour l'Afrique, exposer un objet d'art africain, un masque par exemple, l'exposer dans un musée...
Il perd tout son sens.
Non, mais c'est non seulement ça, mais c'est aussi d'une grande violence.
C'est une violence. C'est une violence parce que l'objet n'a même pas été créé pour être exposé. L'objet est caché en forêt.
C'est-à-dire que l'exposer, c'est l'assassiner d'une certaine... Assassiner le sens qu'il porte en lui.
Voilà. Il n'y a que les initiés qui pouvaient voir les objets.
Alors, quand on parle d'art, je crois qu'il faut toujours qu'on prenne des exemples, cher Babacar Mbaye Diop. On va se rapprocher d'un artiste que vous aimez bien, c'est l'artiste plasticien Romuald Azoumé, artiste reconnu notamment pour La Bouche du Roi, que j'ai regardé. C'est une installation qui a été exposée en Grande-Bretagne dans le cadre des commémorations du bicentenaire de l'acte de loi de 1807 sur le commerce des esclaves par le Parlement. À partir d'une gravure du XVIIIe siècle montrant un navire négrier, il a rassemblé environ 300 masques faits dans des bidons d'essence et qui symbolisent les esclaves.
Quand vous voyez un masque comme ça, la couleur rouge, et quand on voit cette couleur verte et là on voit de côté cette couleur jaune, on peut imaginer que cette personne qui a marqué ce bidon fait partie forcément d'un vaudou mauvais. C'est ce qu'on appelle un vaudou à sang rouge. Sinon, il ne serait jamais habilité à utiliser du rouge. Ou il fait partie de Tchango ou de Heavy Yusuf. Ça, ce n'est pas lisible par tout le monde. Et c'est ça nos valeurs. Et ce bateau dont moi je parle aujourd'hui, c'est celui que je connais le mieux parce que je vis en Afrique. Je suis face aux réalités. Cette pièce est faite pour ça, pour que nous-mêmes nous rendions compte que nous avons intérêt à nous bouger. Le plus important pour moi, c'est que cette œuvre revienne en Afrique et que les gens la revoient. Aujourd'hui, moi je suis au musée de Cœur Branly et je suis très fier d'être au musée de Cœur Branly. Je veux redonner cette dignité-là à l'Afrique, cette dignité perdue à l'Afrique. Et je ne suis pas le seul. Le mouvement devient de plus en plus grand. Évidemment, ce n'est pas un mouvement politique, mais c'est quelques individus qui n'ont pas leur langue dans la poche. Un arrêt, c'est un itinérant qui parcourt des royaumes à royaumes et qui monte sa tradition de peuple en peuple, qui la développe, qui la perpétue, et qui vit avec, et qui l'enseigne à d'autres. Moi, je suis un arrêt du temps moderne.
Alors, Babacar Mbaye Diop, pour en sol majeur sur RFI, est-ce que vous pensez que l'un de ces bidons pouvant appartenir à la cosmogonie vaudou, on va dire, par la force de l'imaginaire de Romuald Azoumé qu'on écoutait là, est-ce que ça a sa place dans un musée?
Oui, il faudrait aussi rappeler un peu ce que fait Azoumé. C'est important. Azoumé, il ramasse des bidons à la frontière du Nigeria pour en faire des masques. Parce qu'il est convaincu d'une chose, pour lui, il n'y a pas de rupture entre l'art ancien et l'art contemporain. Il y a plus une continuité qu'une rupture. Et donc ce que fait Azoumé, il reproduit des masques à travers des bidons. Il donne aux masques africains une certaine contemporanéité.
Oui, on voit, j'ai une image en tête, ce sont des Africains du Bénin qui sont sur des mobilettes et qui sont porteurs de, je ne sais pas, une cinquantaine de bidons tout autour de leur corps. Ouais. Et ça symbolise aux yeux d'Azoumé l'esclavage, mais là l'esclavage moderne.
Voilà, c'est un artiste engagé dans ce sens-là. Non seulement il critique le système, mais aussi il critique le fait que ces gens-là soient utilisés comme des esclaves. Mmh. Ils sont super mal payés. Et donc, ce qui m'a plu chez Azoumé, c'est vraiment le fait qu'il veut tracer une continuité entre l'art ancien et l'art contemporain. Sur maintenant le fait que cette œuvre soit exposée dans un musée.
Oui, parce que là, on est dans la cosmogonie vaudou, on est dans une dimension un peu mystique. Donc, vous nous expliquez que tous ces objets d'art, finalement, ils ont une vie intrinsèque à cette cosmogonie. Est-ce que ce n'est pas sacrilège de les exposer dans au musée du Quai Branly?
C'est de la même manière que ces objets africains, c'est un sacrilège. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est l'institution qui définit ce que c'est une œuvre d'art. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Goodman, dans un très beau texte qui s'appelle « Quand y a-t-il art ? Quand peut-on dire que cet objet est une œuvre d'art ?» Et donc il dit ceci, vous ramassez un objet dans la rue, vous la considérez comme un simple objet, une pierre. Mais cet objet, cette même pierre, vous la déplacez dans un musée, vous le regarderez autrement. La chaise ici sur laquelle vous êtes assise là, vous la considérez comme une chaise. Mais déplacée dans un musée, vous la regarderez autrement. Donc c'est le musée, c'est l'institution qui définit aujourd'hui l'œuvre d'art. Le fait que ces objets soient dans un musée, c'est un sacrilège, certes. Mais ce fait, encore une fois, n'est pas spécifique à l'Afrique. Il faut dire aussi par rapport à l'Afrique que les conditions qui prédisposaient à la création d'objets d'art ancien n'existent plus. Parce qu'il y a l'islam qui interdit de reproduire. Voilà. Et du coup, il y a certains pays encore, peut-être le Nigeria, le Congo, le Bénin, mais beaucoup d'autres pays africains, on ne voit plus la création de masques. Et donc, ce que fait Azoumé, c'est important. Il donne au masque sa dimension contemporaine.
Alors, je suppose, Babacar Mbaye Diop, que vous êtes très, très attentif au vaste mouvement décolonial qui s'opère en ce moment et dans lequel s'inscrit le fameux rapport Bénédicte Savoie-Felwine-Sarr sur la restitution des œuvres d'art à l'Afrique, œuvres qui ont été pillées essentiellement pendant la période de la colonisation française. RFI s'en est d'ailleurs fait largement l'écho. Hein. Mmh. Alors, ça concerne notamment les 90 000 pièces qui ont été inventoriées au musée du Quai Branly à Paris. Est-ce que cette promesse, selon vous, faite par Emmanuel Macron il y a un an aujourd'hui, augure d'une nouvelle relation entre la France et les quatre pays concernés, anciennement colonisés, ex-AOF, ex-AEF, Sénégal, Mali, Cameroun et Bénin?
Oui, je pense que ça augure une nouvelle relation entre l'Afrique et la France. Parce que pendant longtemps, beaucoup d'Africains, des chercheurs, des universitaires ont milité pour le retour de ces objets en Afrique. Si on considère l'ensemble des objets qui sont produits par une société, la dispersion est une aliénation. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité fondamentale de ce retour des objets en Afrique. C'est faux de dire que les Africains n'auront pas assez de musées, que les Africains n'auront pas assez de places, que les Africains n'ont pas assez d'experts pour garder ces objets. C'est un faux débat. Ces objets appartiennent à l'Afrique, qu'ils retournent en Afrique. Après, c'est aux Africains de voir la suite.
On va souffler un petit peu avec Alpha Blondie sur RFI et sa chanson « Les imbéciles » que vous avez programmée en sol majeur, Babacar. Et oui, ce qu'il dit, c'est que les imbéciles de l'Afrique, ce sont les Africains. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic terrible ?
Je suis tout à fait d'accord avec lui.
change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire à reculons. Les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Somaliens fusillés, Somaliens. Les Rwandais génocide Rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. Sont enfuis à tombeau ouvert. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas.
Exponentielle et baignant dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique!
Alpha Blondie sur RFI qui vous balance ses quatre vérités, mais bon, c'est façon reggae, donc ça coule tout seul. Ça se passe en sol majeur avec Babacar Mbaye Diop, docteur en philosophie et critique d'art sénégalais. Qui s'y connaît en tirailleur, donc c'est parti pour une minute de Kantia Roy, le film.
Mangez là, pas bon. Nous pas costumes. Ça c'est vérité même.
Hé hey, chef.
C'est quoi même?
Ça c'est magie de quoi?
Ça c'est ordinaire tirailleur.
Tu connais? Tu connais ce cartophone et Ritabaga? Ça mazé dans le camp prisonnier allemand. Cartophone même mieux que ça.
Moi, simple chef cuisinier. Moi, pas intendant. Préparez ce qu'est donné moi.
Toi, croire que ici camp prisonnier? Ici, pas camp prisonnier allemand.
Vous n'avez pas contentement monté voir ma lieutenant.
Tu connaisseras nous. Tu connaisseras. Tant pis.
Merde. Moi, chef cuisinier. Très sans de service.
Tu donnes un cochon. Même cochon refusait manger.
Moi simple et chef cuisinier. Moi pas intendant.
S comme séquence sépia.
Avec ce somptueux film de Samben Ousmane, donc habilement censuré par la France dans les années 80, film sur le massacre de Tiaroy en 44. Je rappelle rapidement, les troupes coloniales ont tiré sur 35 tirailleurs, anciens prisonniers de guerre, qui manifestaient pour le paiement de leur indemnité promise. Alors je ne sais pas si vous êtes vous-même petit-fils de tirailleurs, Babacar Mbaye Diop. En tout cas, cette page d'histoire et ce film comptent pour vous.
Ah oui, d'autant plus que c'est une histoire importante, en tout cas pour le Sénégal. On dit 35, mais c'est peut-être même plus. C'est peut-être même plus. Voilà des combattants qui sont revenus en Afrique, qui réclamaient leur salaire et qui ont été fusillés. Aujourd'hui, il y a un mémorial, il y a un cimetière pour eux. Ce qu'on vient d'écouter, c'est important, c'est le repas servi par les combattants, les soldats. Et récemment, le président de la République, Macky Sall, avait dit que les tirailleurs étaient bien servis, ils avaient même un dessert. Ça crée un tollé au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'on a un dessert qu'on est bien servi et puis qu'on mange bien.
Comment vous expliquez ça, cette analyse, enfin cette interprétation du président sénégalais?
Ça nous a surpris et moi-même je ne comprends pas. Être un tirailleur, et on sait tous que les tirailleurs ne mangeaient pas la même chose que les Français, ne percevaient pas le même salaire que les Français, alors qu'ils ont combattu auprès des Français. Ils ont quand même libéré la France. En tout cas, ils ont participé à la libération de la France.
Pensez qu'il y a un malaise de la part des autorités sénégalaises vis-à-vis des autorités françaises sur ce dossier?
Oui, parce que jusqu'à présent, les enquêtes continuent et toujours on réclame vraiment le dossier. On veut savoir réellement pourquoi ces gens-là ont été fusillés.
Tout en disant, parce que vous l'exprimez tranquillement en off, hein, Babacar Mbaye Diop, que l'histoire de la colonisation, il va falloir qu'on la dépasse sur le continent.
Je suis tout à fait d'accord, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que tout vient de la colonisation. Non, aujourd'hui, comme le dit Alpha Blondy dans cette belle chanson, seuls les imbéciles ne changent pas. Aujourd'hui, les conflits, les guerres, c'est entre Africains.
Oui, on va vous dire, on peut vous objecter que c'est aussi lié au tracé des frontières qui ont été décidées, on le sait, par les anciens colonisateurs.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, et à un moment donné, il va falloir tourner cette page, c'est ça que vous dites?
Voilà, moi je suis pour qu'on tourne cette page et qu'on pense au futur africain. On ne peut plus continuer à dépendre de l'Europe, de l'Occident. C'est à nous vraiment de développer le continent africain.
Alors vous l'avez entendu dans cet extrait de Kantiaroy, il y a un travail sur la langue qui est extraordinaire. Chaque tirailleur parle dans son français avancé, comme on dit à Abidjan, mais voilà, chacun a sa langue, c'est magnifique ça. C'est vraiment précurseur, je trouve.
Il faut dire que les tirailleurs viennent de partout, de la Côte d'Ivoire, du Mali, donc du Sénégal, du Tchad, du Togo, et chacun... Il y a un mélange des langues nationales avec le français et qui fait le charme d'ailleurs.
Voilà, et l'un s'appelle Congo, l'autre s'appelle Bénin, etc.
Voilà.
Vous qui êtes wolophone et francophone, Babacar, à quel moment vous pensez dans une langue plutôt que dans une autre?
Très difficile parce que j'ai commencé à apprendre le français très tôt, à l'âge de 6 ans. Donc peut-être que 6 ans, c'est là où on commence à maîtriser même la langue maternelle. C'est là où j'ai commencé à parler français.
Votre langue maternelle, c'est le français alors?
C'est le Wolof. Mais aujourd'hui, je suis vraiment entre les deux. Et comme je l'ai dit au début, je ne peux pas nier cette partie de moi-même. Après avoir vécu 15 ans en France, après avoir appris le français depuis l'âge de 6 ans, aujourd'hui, c'est une partie de moi-même que je ne peux pas nier.
Donc on va dire que... La raison est en français et l'émotion, pour reprendre Senghor, est en wolof.
Ça, j'aimerais y revenir. Parce que tellement. Senghor a été mal compris. Senghor n'a jamais dit que les Africains ne pensent pas. Senghor n'a jamais dit que l'Africain est dénué de raison. Dans ce propos, et d'ailleurs, tous ceux qui citent cette phrase, l'émotion est nègre, la raison est laine, ne vous diront pas où est-ce que Senghor l'a dit. Il l'a dit dans un très beau texte qui s'appelle Ce que l'homme noir apporte. Dans ce texte-là, Senghor dit cette phrase à propos de l'art africain. Donc l'émotion est aux œuvres d'art africain ce que la raison est à la statuaire hélène.
Merci pour cette précision, professeur. En tout cas, vous qui passez du Wolof au français, du français au Wolof, vous pouvez aussi passer d'un humour à l'autre. Exemple.
Qu'est-ce que tu as préparé?
C'est guaguasou.
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 Écoute, il y a longtemps, j'ai arrêté de manger ce genre de choses. Hein. C'est fini, ça. Moi, désormais, je ne mangerai plus que la sauce de mon parti. Hein. Tu comprends?
Mmh.
Voilà.
La sauce de ton parti, là, c'est quoi?
C'est du sel, du piment avec de l'eau. C'est très simple. Nous, on n'est pas compliqué. Ah ouais.
Quel est le rapport entre la sauce et la politique?
Imagine un peu Gourou a une réunion politique. Et puis, il a la sauce de la gauche, la sauce de la droite, la sauce du centre dans son ventre. Moi, dans mon ventre. Nega! Mmh. Et la sauce de mon parti, alors? C'est ça, la meilleure sauce. Tu comprends? C'est comme...
Go, tu te tais et tu manges.
Oh non, moi je ne mange pas. C'est fini ça. Marie-Laure, va me préparer ma sauce neutre. Ça, c'est la sauce.
Marie-Laure, tu ne prépares rien.
Marie-Laure, c'est moi le responsable de cette maison, y compris la cuisine que tu gères. Donc, va me préparer ma sauce neutre. Allez.
Marie-Laure, dès que tu rentres dans cette cuisine-là, tu sors, tu fais tes bagages et tu dégages d'ici.
Non, mais on est un beau pays, la France, quand même, c'est vrai. Mais en Birmanie, quand tu manifestes, on te tire dessus. Au Pakistan, on t'assigne à résidence. En France, on t'interview, on t'invite à l'Elysée. Puis c'était gentil qu'il peut même recevoir du pognon du MEDEF. Non, mais attention, hein. Attention, maintenant ça va être difficile de devenir français avec les lois de hortefeux. Là, c'est l'immigration choisie. Je vous explique. Seuls pourront devenir français les Asiatiques aux yeux bleus. Les musulmans de religion catholique. Ceux qui maîtrisent parfaitement l'imparfait du subjonctif. Non, mais il y a une exception si t'es doué en sport. Si t'arrives à mettre 5 buts en 10 minutes, t'es français. Tu gagnes, t'es français, tu perds, t'es noir.
Bon, on a le sourire et on rappelle en sol majeur sur RFX, c'est quasiment une archive, hein, puisque ça fait, Anne Roumanoff fait référence à la période ministère de l'Identité nationale et de l'immigration instaurée par Nicolas Sarkozy en 2007. Vous étiez là, d'ailleurs,
Babacar. Oui, j'étais encore là et je me rappelle bien de cette histoire-là. À l'époque, on avait formé un collectif d'étudiants étrangers, africains, pour revendiquer nos droits. Mmh. Et j'étais le président.
D'accord. Ouais. Ah oui, d'accord.
Voilà, c'était à Rouen.
Et alors donc, l'Asiatique aux yeux bleus que vous n'êtes pas, il en est où alors par rapport à cette histoire d'identité française?
Oui, parce que on s'est rendu compte que les étudiants avaient du mal à avoir même leur permis de séjour. Parce qu'ils nous demandaient beaucoup de choses en même temps que nous ne pouvions pas donc fournir. Je vous rappelle que quand je suis venu en France en tant qu'étudiant, je n'avais pas de bourse. Mmh. C'est ma mère qui m'a pris en charge. Vous imaginez, ça coûte très cher. La deuxième année, je lui dis, maman, écoute, ça coûte cher. Il faut que je me débrouille maintenant. Je commence à connaître la France. Il faut que je travaille dans les restaurants, les hôtels. Mmh. C'est là que j'ai commencé donc à travailler dans les restaurants pour m'en sortir. Pour revenir à votre question, donc, cette loi sur l'immigration, nous, on l'a vécu. On l'a vécu et on s'est rendu compte que c'était de plus en plus difficile de venir en France. Alors qu'il y a une histoire qui est là. Mm-hmm. On se rappelle quand la France a gagné la Coupe du Monde. Si vous voulez, quand il y a le sport, il y a cette communauté noir et blanc ensemble et qui est quand même une force pour la France. Il faut que la France sache qu'aujourd'hui, elle est métisse. Ces Africains, ces gens qui viennent des pays arabes, ils sont aujourd'hui français. Il faut qu'on sache qu'on peut être français et être noir, on peut être français et être arabe, on peut être français et être musulman. C'est important.
Justement, vous avez présidé la 11e édition de la Biennale de Dakar, Babacar Mbaye Diop, sur le thème « Produire le commun ». Est-ce que ce que vous faites en faisant naviguer votre réflexion de philosophe entre les deux rives, c'est justement pour chercher à instaurer un dialogue d'égal à égal?
Oui, il faut un dialogue des différentes cultures. Il n'y a plus de domination qui traîne aujourd'hui.
Mais est-ce que vous êtes vous-même, en tant que docteur en philosophie, quand vous écrivez des ouvrages comme ça sur l'art africain notamment, reconnu par vos pairs du côté français?
Certains qui me connaissent, bien sûr. D'abord, le livre...
Où est-ce que vous pensez, vous sentez qu'il y a une résistance, honnêtement?
Il y a encore une résistance. parce que d'abord, on a du mal à publier en France, parce que pendant longtemps, on a laissé l'Occident parler de notre art. Je me suis dit, mais il est temps que nous parlons nous-mêmes de notre art. Il n'y a pas mieux que nous qui puissions parler de ce que nous connaissons, ce que nous vivons. Donc, ce livre-là entre dans ce sens-là, c'est vraiment une déconstruction et une réappropriation de la notion d'art africain.
Vous qui êtes peut-être un amoureux de l'absolu, puisque vous aimez Hegel, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui alors de cette navigation pour vous entre Kaolack et Rouen, entre la philosophie occidentale et le monde de l'invisible, le monde mystique peut-être, je ne sais pas, entre ces identités françaises et sénégalaises? Est-ce qu'il y a du renoncement de votre part ou est-ce qu'il y a une harmonie?
Il y a plutôt une harmonie qu'un renoncement. Parce que la question fondamentale que je me suis posée pendant longtemps, c'est comment concilier ma culture africaine et la culture occidentale.
Alors, réponse.
Si on revient à Samba Diallo, on remarque qu'il y a eu un échec de Samba Diallo.
Il finit assassiné pour être entre ces deux identités africaines et occidentales.
Au retour en Afrique, il ne croyait plus en Dieu. Il ne faisait plus ses prières et il a été assassiné par un fou. Donc on peut se dire que simplement, il y a eu un échec, en tout cas, de cette réconciliation entre les deux cultures.
Donc comment vous conciliez-vous ces identités africaines qui sont en vous et cette identité occidentale, pour le dire vite?
Je les concilie, pour moi, je me construis à travers plusieurs identités. Je suis un être hybride, tout simplement. Et ce qu'il me faut, c'est tout simplement être au rendez-vous de donner et de recevoir. C'est-à-dire que je vais donner à l'autre ce que j'ai à donner, mais aussi recevoir de l'autre ce qu'il peut, en tout cas, m'offrir.
Donc il vous faut, pour être en harmonie avec vous-même, un peu de philosophie à la Hegel, il vous faut la prière musulmane, et il vous faut la langue wolof, quoi d'autre?
Il me faut la culture française, il me faut le français, il me faut aller souvent en Normandie, parce que je connais bien, si vous voulez, le pays cauchois, parce que je connais plus Rouen que Dakar.
Vous connaissez plus Rouen que Dakar?
Oui. Voilà.
Et alors, c'est quoi votre
Parce
point de Dakar, prédilection
Dakar,
à Rouen?
C'est une grande ville, c'est grand. C'est plus de 2 millions, 3 millions maintenant. Voilà.
Votre petit coin de prédilection à Rouen, c'est quoi?
J'aime bien le café qui est à côté de la gare de Rouen, où Jean-Paul Sartre était souvent.
Ah.
Et d'ailleurs, sur la porte du café, on a écrit Jean-Paul Sartre venait ici souvent.
Une dernière question, chez vous, mais vous avez peut-être deux chez vous. En fait, vous avez quand même quitté la France il y a une quinzaine d'années maintenant. Mais chez vous, donc, dans votre maison, est-ce qu'il y a plutôt, si on parle d'art, du Che Kouba, du Picasso, du Abdelsamed Adel ou du celui-ci c'est...
Du Picasso, ça coûte très cher.
Je me doute. Une petite copie, alors.
Voilà, des copies, oui. En fait, j'ai des copies, mais j'ai beaucoup de tableaux à la maison. Beaucoup de tableaux. Ma maison, il n'y a que des œuvres d'art.
Alors, une œuvre d'art pour qu'on ait une image. Et
j'ai une œuvre d'art de Zulu Mbaye, qui est un artiste contemporain sénégalais, qui travaille sur les signes. J'ai une œuvre d'art de Daoude Ndiaye, qui travaille sur le sous-vert. Le sous-vert, c'est une technique artistique, en tout cas, proprement du Sénégal. J'ai aussi une œuvre d'art d'un jeune artiste qui s'appelle Ismaël Weber. J'ai une œuvre d'art de Kine Aou, qui est une artiste, c'est d'ailleurs l'une des rares artistes au Sénégal que j'encadre, parce qu'il y a beaucoup d'artistes hommes, mais elle c'est une femme qui raconte un peu les mythes et légendes au Sénégal. Elle raconte les génies qui sont à Dakar, donc à Kaolack, un peu partout. Donc c'est une artiste qui fait de très belles choses et que j'apprécie beaucoup.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire aux éditions Herman de Babacar Mbaye Diop, critique de la notion d'art africain. Merci Babacar. Et puis comme vous êtes d'accord, je crois, avec Nietzsche qui disait « La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil », vous avez écrit, on n'a pas le temps d'en parler, mais je le signale quand même, un livre qui s'intitule « Omar Penn, un destin en musique ». Et vous dites que vous avez l'impression que chacune de ces paroles parle de vous.
Oui. Parce que Omar Penn parle de la société, il parle des maladies au Sénégal, le paludisme qui tue beaucoup d'enfants, il parle des conflits en Afrique. Il parle de la politique, il parle de nos problèmes africains. Il parle surtout des problèmes des étudiants au Sénégal. Vous savez, la fac de Dakar, c'est 90 000 étudiants. C'est énorme, c'est presque une ville. Et donc Omar Penn en parle souvent. C'est un peu l'ami des étudiants.
Et alors l'éternel étudiant, il va choisir quoi alors? L'orpheline ou plus on est de fou?
Plus on est de fou.
Pourquoi? Pourquoi?
Parce que ça aussi c'est un appel pour l'Afrique.
Un appel?
Oui, c'est un appel pour plus de liberté, pour plus d'expression, pour plus d'engagement dans la société.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio avec une équipe de choc, Sophia Bédard, Laura Pinto, Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki. On vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec le réalisateur cambodgien, franco-cambodgien, Ritipan. À la semaine prochaine. Avec moi.